Du 26 juin au 1er juillet, j'étais à la ressourcerie court-circuit à Feltin pour la semaine intergalactique des ateliers partagés. Ouais, rien que ça. Je vous lis un extrait du flyer pour vous donner une idée. Tout au long de la semaine intergalactique des ateliers partagés, une trentaine de personnes vont fabriquer des pales d'éoliennes, tenter la fabrication d'un modèle inédit de rocket stove ou cuiseur à économie d'énergie, échanger et partager sur ce qu'on entend par low-tech, améliorer un modèle de méthaniseur domestique. Tout un programme. Et on va commencer avec Joey, organisateur, qui nous donne un panorama des activités.
Le lundi, on a présenté un peu la ressourcerie, la semaine, le contexte, et puis l'après-midi, c'était plutôt l'initiation. Le mardi, c'est la journée où commencent les gros ateliers, donc l'atelier pales d'éoliennes. On aura aussi la conception d'un gros rocket stove. Un rocket stove, c'est un cuiseur. On va faire un atelier tracker solaire aussi. Donc le tracker solaire, ça permet de pouvoir suivre le soleil pour des outils comme un séchoir solaire ou un four solaire. Et ensuite, des présentations sur la méthanisation par l'association Picojoule. On va avoir également des intervenants qui sont sur des doctorats ou qui sont chercheurs, qui vont venir intervenir lors d'une table ronde dont la thématique est la professionnalisation et les low-tech. Ensuite, on aura aussi des initiations à la soudure et d'autres discussions.
Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet événement, il a un nom officiel. La Semaine des Alternatives Low-Tech, ou la SALT pour les intimes. Et c'est un événement itinérant qui se déroule chaque année dans un lieu différent. Mais je vais laisser Florent, organisateur au niveau national, vous expliquer ça.
Je m'appelle Florent, je suis ingénieur en mécanique et on est dans la ressourcerie de court-circuit à Feltin, dans la Creuse, qui accueille l'événement pendant une semaine. Et moi, je suis ici parce que j'organise pour la troisième fois cet événement. On accueille une trentaine de participants, dont un tiers d'organisateurs, un tiers de participants qui viennent de la France entière et un dernier tiers de participants locaux qui connaissaient déjà la ressourcerie et qui se sont inscrits à l'événement. Toutes les personnes présentes sont là donc pour soit découvrir, soit approfondir un petit peu leur lien au monde des low-tech. Le low-tech, c'est... La racine du mot, c'est à l'origine de l'opposition à la high-tech et notamment en fait de ses dérives et de la surconsommation de technologie et de tout ce que ça amène comme conséquence un peu néfaste sur la société, sur l'écologie, sur l'empreinte qu'on a sur la nature. Et l'objectif de la low-tech, c'est en fait de chercher une démarche écologique qui permette de répondre à nos besoins techniques mais en utilisant le juste niveau technologique, pas d'excédent, et essayer de fabriquer des systèmes techniques qui soient, la plupart du temps, réparables, avec une réflexion sur les matériaux, sur la manière dont c'est conçu, que ce soit compréhensible. C'est un événement qui, pour moi, est extraordinaire, à la fois sur s'accorder le temps de réfléchir et de prendre du recul, en fait, sur... Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Quels sont les usages techniques et quelle énergie il y a derrière? Voilà, prendre un peu ce recul-là. Et aussi le faire avec des personnes que ça intéresse et le faire dans la joie et en fait de s'éclater pendant une semaine. On essaie de s'approprier cet univers et d'avoir un équilibre entre théorie et pratique pendant la semaine. Donc à la fois réfléchir sur cette démarche et qu'est-ce que ça veut dire. Et ça amène beaucoup de questions politiques, écologiques, sociales, et à la fois bricoler pour faire le lien entre les deux. Aujourd'hui, j'exerce en tant qu'ingénieur dans une activité industrielle qui est assez classique, qui m'apporte beaucoup en termes d'expérience vraiment technique. C'est très intéressant technologiquement. Ça répond à certains besoins de la société, mais il y a une part d'engagement qui est pas encore. Je suis pas encore totalement aligné, et donc je suis en cours de recherche. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup d'y réfléchir en dehors de mon travail et de continuer à me poser des questions et d'interagir avec les personnes qui se posent un peu les mêmes questions et de dessiner un chemin petit à petit qui ait plus de sens pour moi.
Moi, c'est Lucie, donc je fais partie de l'équipe d'organisation de l'événement. Donc je ne suis pas de la Creuse, je suis venue spécialement pour ça. Et j'ai fait un cursus d'ingé que j'ai terminé récemment.
À la fin, je sais pas si...
Tu peux la serrer un peu, ouais. Voilà, c'est pas mal. Pour cette première après-midi de la SALT, j'anime un atelier d'initiation à l'électroportatif. Donc on utilise les machines de base comme la perceuse visseuse, la scie circulaire, la scie sauteuse pour l'instant. Et donc le but c'est de se familiariser avec ces machines-là. Et c'est une initiation pour moi aussi puisque je ne les maîtrise pas à 100%. Et on essaie de créer un moment de partage où chacun apporte ses connaissances et ce qu'il sait faire. Voilà, c'est assez participatif.
Avant de chauffer là ?
Parce que pour lui, c'était facile de prendre le décapant là et d'en mettre un point
orange. Après, il va au marron.
Bertrand, qui est co-organisateur depuis Feltin, nous explique comment l'événement est arrivé jusqu'ici.
Donc moi, je suis Bertrand. Je travaille à la ressourcerie et à court-circuit. La semaine de low-tech avait eu lieu dans le Poitou et on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'accueillir cet événement à plusieurs titres. Bah déjà parce que nous, des low-tech, on peut considérer qu'avec notre programmation d'ateliers partagés, qui sont les ateliers vélo, ateliers couture, ateliers manche d'outils, ateliers soudure et tous les autres ateliers qu'on organise, on est un peu dans l'idée de la démarche low-tech, dans le sens où on cherche à rendre les personnes autonome. Et la deuxième chose qui nous a donné envie d'accueillir ces rencontres, c'est l'idée d'accueillir des personnes qui habitent pas sur le territoire et d'essayer de montrer un peu tout ce qui se passe ici et puis de permettre à des personnes du coin de participer à une rencontre qui est un peu avec des personnes qui viennent d'un peu partout en France. Que je trouve intéressant, c'est la diversité des points de vue qu'il peut y avoir dans l'ensemble des participants qui sont là aujourd'hui, entre les personnes qui viennent de loin, qui pour la plupart ont plutôt un profil ingénieur, et puis les personnes d'ici qui sont plus des bricoleurs novices ou expérimentés, et que je trouve que ça fait un chouette mélange.
Là il est en normal.
En fait c'est parce qu'en gros quand t'as voulu le brancher il s'est...
Je crois pas que c'est juste...
Je t'assure.
Ah oui.
Mais c'est normal, hein, on joue sur 20 millibars. Donc,
ouais. Alors je suis Daniel Burry, autoconstructeur, pour moi-même et c'est tout. Et ben, je bidouille parce que comme j'ai pas envie de travailler et de financer la finance, donc je travaille pas. Je dépense mes économies doucement, le plus lentement possible. Voilà. Donc j'ai pas de portable, j'ai pas de smartphone, j'ai pas de tablette, j'ai pas d'électronique, j'ai pas d'adresse mail, ni d'ordinateur. Et ça me va plutôt pas trop mal. Et donc je bidouille ce que je peux en fonction de ce que je peux faire, quoi. Donc y a un chauffe-eau solaire qui est en attente d'être posé, quoi. Faut que je trouve un petit moteur, une petite pompe, si possible en basse tension, pour arriver à faire redescendre l'eau chaude. Quoi. Le capteur étant assez haut sur la toiture, donc je peux pas l'eau elle peut pas fonctionner en thermosiphon de cette façon-là. À moins de mettre la maison à l'envers, mais ça passe pas, ça marche pas.
Attention, je branche. Et après, tu vas démarrer la scie, qu'elle démarre dans le vide. T'as déjà utilisé sur
ouais.
Un petit peu.
Ouais. Moi c'est Blanche, et il s'avère que je suis venue à vélo, j'ai fait très exactement Lyon-Feltin pour venir, c'était très sympa. Donc ici là, on fait un atelier de réparation de pales d'éoliennes, un agriculteur du coin avait une éolienne depuis 10 ans, donc les pales étaient assez usées et donc il nous a demandé de les changer. Donc là on retaille dans des nouvelles pièces de bois des nouvelles pales. Là c'est assez coopératif, il y a un animateur qui est venu pour ça et dont c'est l'atelier, donc c'est lui qui anime, nous dirige, c'est quoi faire, comment faire, prend les décisions, c'est lui qui a géré tout le matériel. Par contre nous on vient pour apprendre et aider, donc finalement on fait ensemble.
Si vous vous demandez ce que c'est qu'un méthaniseur et qu'est-ce que vous pourriez bien faire de ça chez vous, Louis, de l'association Picojoule, vous explique ça.
Moi c'est Louis Cornette, je suis membre de l'association Picojoule, donc qui est une association d'intérêt général qui est basée près de Toulouse et qui fait de la pico-micro-méthanisation. Donc la méthanisation, c'est comme du compostage mais sans oxygène et l'idée c'est de transformer des décharges d'aniches, donc par exemple des épluchures ou des toilettes sèches par exemple, pour en faire du gaz et de l'engrais. Avec un méthaniseur, donc on produit du biogaz, Donc c'est, qui est composé essentiellement de méthane. Et le méthane, c'est la même chose que ce qu'il y a dans le gaz de ville. Et donc avec ça, on peut, bah, l'idée, c'est de pouvoir faire de la cuisine. Et donc avec un petit méthaniseur qui fait environ 1 mètre cube, donc une tonne à eau, donc c'est quelque chose qui est vraiment pas très gros, on peut produire assez de gaz pour une famille de 4 personnes. Et pour le remplir, donc on peut utiliser, comme je disais, des toilettes sèches, on peut utiliser du fumier, de la fiente de poule, à peu près tous les déchets organiques en fait. Et on va aussi produire donc du digesta, donc c'est le résidu qui, c'est ce qui reste en fait après la méthanisation. Et ce digesta, on peut utiliser comme amendement, pour, donc, comme du, un peu comme du compost, ou comme engrais. C'est surtout en ça que c'est intéressant. Donc engrais, on va apporter l'azote, le phosphore et tous les nutriments nécessaires pour la croissance des plantes. Donc ça permet du coup donc, de réduire les déchets et d'avoir du gaz pour la cuisine et de l'engrais. Donc c'est quand même assez magique. Il y a un point important aussi à Picojoule, c'est qu'on s'axe vraiment sur la micro-méthanisation, de la méthanisation domestique. Donc pour des particuliers et des petits collectifs éventuellement, ou des petits agriculteurs qui s'installent, par exemple qui font de la transformation alimentaire, qui ont besoin de gaz pour chauffer. Mais on se place par c'est une technologie qui, on part des mêmes principes en fait biologiques que la méthanisation industrielle, mais c'est une technologie qui est complètement différente, dans le sens où la méthanisation industrielle, c'est vraiment sur des dimensions gigantesques. Ça nécessite du matériel très high-tech, ça nécessite d'importer des déchets à plusieurs kilomètres à la ronde, ça cause énormément de nuisances. Nous, on n'est vraiment pas sur cette dynamique-là, on est vraiment sur une démarche d'autonomisation des gens, que les personnes puissent produire au moins une partie de l'énergie dont elles ont besoin, et de valoriser leurs déchets, mais en évitant de surdimensionner les systèmes, ce qui est le problème majeur dans la méthane industrielle. Et donc, Picojoule, du coup, certains des membres de l'asso sont aussi membres de l'organisation de cette semaine. Et donc, on dit, bah, ce serait bien de présenter un atelier sur la micro-méthanisation pendant cet événement. Et donc, ils ont pris contact avec des agriculteurs et des personnes habitant dans le coin qui étaient intéressés par, justement, la micro-méthanisation. Donc, ils sont venus mi-avril pour faire un premier atelier pour construire des méthaniseurs et pour former des personnes ici. Et là, c'est l'occasion du coup de montrer ces méthaniseurs à des personnes qui sont intéressées, qui pourraient potentiellement vouloir en faire.
Pendant la présentation publique du méthaniseur, Evelyne m'a semblé particulièrement inspirée.
Donc moi, c'est Evelyne, j'habite pas très loin. J'ai toujours été un peu sur l'envie de polluer le moins possible, tout en vivant le mieux possible. Et la méthanisation m'intéressait. J'ai une formation de chimiste au départ. Puis j'avais quand même entendu beaucoup de choses, en positif, en négatif. Donc je voulais faire le point. Ben, j'ai vraiment compris la grande différence entre les picométhaniseurs qui, à mon avis, ont un avenir. Je pense qu'au niveau des logements collectifs, c'est une manière de gérer nos déchets d'une manière intelligente.
Et enfin, pour terminer cet aperçu, Guillaume et Romain nous emmènent faire un tour sur un vélo qu'ils ont construit.
Moi, c'est Guillaume. Là, on est en train de faire du vélo en côte, dans la campagne feltinoise. Et c'est un vélo deux places adultes ou un adulte et trois enfants. Des vélos qu'on a construits avec Romain, un ami à Feltin. C'est des vélos qui sont inspirés d'un modèle qui s'appelle XYZ Cargo. C'est un Danois qui développe ça, un peu en open source. Du coup, c'est des vélos en tube en aluminium assemblés avec de la boulonnerie inox. Pas de soudure, juste besoin d'une scie à métal et d'une visseuse. Et c'est bon, on peut partir sur les routes. Mais ça monte quand même.
Donc je suis Romain et avec Guillaume, on a fait les deux modèles de vélo. En gros, un vélo cargo électrique dans le commerce, ça coûte 5, 7, 8 000 euros. On a décidé de le fabriquer parce que je crois qu'on a le goût du bricolage et puis d'inventer et de fabriquer nous-mêmes. Et aussi parce qu'il y en a eu pour 1 800 euros de pièces. Donc c'est aussi pas du tout le même budget qu'un vélo du commerce, quoi. L'originalité de ce modèle de vélo, en fait, c'est que tout l'ensemble du cadre avec une scie à métaux à main, une perceuse avec une mèche à métal et deux clés, on peut réaliser tout le cadre, quoi. On a passé une petite semaine tranquille à deux à faire ça. C'est vraiment très simple à faire. Après, ce qui est un peu plus délicat, c'est tout ce qui est intégration des pièces vélo. Donc monter les roues, les systèmes de frein. Là, il y a un kit, il y a un moteur électrique sur le pédalier. C'est à la portée de n'importe qui et à de l'envie de bricoler, je dirais. Il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences, mais il faut avoir envie d'y passer un petit peu de temps. Mais voilà.
Et c'est ainsi que s'achève notre bref tour de la semaine des low-tech. Il y avait beaucoup plus d'ateliers que ça. Et si vous aussi, ça vous a donné envie de vous réapproprier la technologie, je ne peux que vous recommander de vous rapprocher de la ressourcerie de Feltin, où vous trouverez des ateliers aussi variés que l'atelier réparation de vélo, atelier couture, atelier informatique, confection de marionnettes ou encore lacto-fermentation.